Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma à la une. Clôture hier à Osaka, au Japon, du forum d'affaires RDC Japon. Un mémorandum d'entente a été signé à cette occasion entre la société congolaise Kerit Resources et la société japonaise Asia Mineral. C'est pour l'exploitation du manganèse dans la province du Congo central. Satisfaction pour la première ministre Judith Suminwa, présente à ses assises, vous l'entendrez. La MONUSCO salue l'accord de paix RDC-Rwanda signé vendredi à Washington. Elle appelle toutes les parties à mettre en œuvre les engagements qui y sont contenus. Le président américain et le président de la Commission de l'Union africaine, eux aussi, saluent cet accord. À Goma, cependant, certains habitants disent percevoir un goût d'inachevé dans cet accord. Et puis, l'invité de ce matin, Didier Katembera, député provincial élu de la ville de Bukavu, il donne son analyse concernant la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda signé vendredi à Washington. Madame, Messieurs, bonjour. La Première ministre Judith Suminwa salue la signature du mémorandum d'entente entre la société congolaise Kerit Resources Ltd. et la société japonaise Asia Mineral Limited pour l'exploitation du manganèse dans la province du Congo central. Elle l'a exprimé hier samedi à Osaka à l'issue du forum d'affaires RDC Japon auquel ont pris part plusieurs ministres congolais ainsi qu'une centaine d'hommes d'affaires japonais. La chef du gouvernement congolais estime que ce mémorandum d'entente vient consolider la coopération entre la République démocratique du Congo et le pays du soleil levant. Voici un extrait de l'allocution de la première ministre Judith Suminwa, propos recueillis par Alain Rungmushinge, l'envoyé spécial de Radio Okapi à Osaka.
Ce forum est demeuré une tribune unique par sa portée internationale et la qualité des participants, parmi lesquels les décideurs publics, les institutions financières, les investisseurs privés et les porteurs de projets. Ils concourent à offrir à la République démocratique du Congo l'opportunité de présenter sa vision, ses priorités et ses ambitions de développement. Le Japon en est un bénéficiaire et reste un partenaire fiable. Inscrit dans un dialogue politique franc et constructif, notre coopération avec l'Empire nippon reste fondée sur une volonté commune de promouvoir des partenariats publics-privés ambitieux et durables. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo s'est inscrite dans un processus de transformation structurelle guidé par une vision claire à long terme. Comme cela a d'ailleurs été dit, d'ici 2050, les potentiels de secteurs extractifs, agricoles et énergétiques auront été pleinement valorisés dans l'optique de construire une économie diversifiée.
La première ministre a aussi salué la signature de l'accord de paix à Washington entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis. Par ailleurs, au cours d'un briefing tenu toujours à Osaka, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, et son collègue Julien Paluku de l'Industrie ont appelé les Congolais à s'approprier cet accord. Et puis, présent sur place à Osaka, le directeur général de la société congolaise Kerit Resources Ltd. a affirmé que l'exploitation du manganèse dans la région de Luozi au Congo central va notamment générer 2500 emplois directs et 1500 emplois indirects. Il s'exprimait ainsi à l'issue de la signature du mémorandum d'entente entre la société japonaise Asia Mineral. Mais quelles sont les prochaines étapes après ce mémorandum d'entente? La réponse avec Félix Samouna, DG de Kerit Resources. Il est au micro de Alain Rongmouchinge.
Les prochaines étapes, c'est que nous allons formaliser notre joint venture dans 2 semaines en créant une société locale qui va s'appeler Kivuvu Congo Mines. Pour le symbole, nous voudrions l'enregistrer au registre du commerce, mais section Congo Central. Donc après cela, nous allons commencer une étape de sensibilisation de la communauté, expliquer le projet, parce que le projet n'est pas qu'un trou, c'est un projet structurant qui aura beaucoup d'effets d'entraînement sur toute la région, aussi bien dans le domaine logistique, infrastructure, dans le domaine d'énergie et aussi dans le domaine de l'agriculture et bien sûr une création d'emplois de minimum 2500 emplois directs et peut-être 1500 emplois indirects. Après cela, nous allons commencer, disons, début août, une prospection aérienne. Donc nous allons faire venir un avion spécialisé d'Afrique du Sud qui va survoler la région de Ngozi pour pouvoir détecter les targets, comme on dit, où il y a vraiment du manganèse pour qu'on ne s'engage pas dans une prospection un peu au hasard.
Dans l'actualité aussi, la MONUSCO salue la signature vendredi 27 juin à Washington de l'accord de paix entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda sous l'égide du département d'État américain. Dans son communiqué de presse publié hier à Kinshasa, la mission onusienne appelle toutes les parties à mettre en œuvre de bonne foi les engagements contenus dans l'accord, notamment le respect du cessez-le-feu et des dispositions prévues dans la résolution 2773. Grâce à Mzati pour les détails.
Pour Madame Viviane Van de Peyre, représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies à RDC et chef par intérim de la MONUSCO, cet accord représente une étape encourageante en faveur de la cessation des hostilités, de la désescalade des tensions régionales et du rétablissement durable de la paix et de la stabilité dans l'est de la RDC et dans la région des Grands Lacs. La mission onusienne salue le rôle déterminant joué par les États-Unis dans la facilitation de cet accord en étroite collaboration avec l'État du Qatar. Le médiateur de l'Union africaine, Faure Gnassingbé, président du Conseil des ministres de la République togolaise, ainsi que les 5 co-facilitateurs désignés par la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Conformément à son mandat, la mission réaffirme sa pleine disponibilité à soutenir la mise en œuvre de cet accord, en coordination étroite avec le gouvernement congolais, l'Union africaine, les organisations régionales et l'ensemble des partenaires internationaux. La MONUSCO reste mobilisée aux côtés des populations congolaises pour appuyer les efforts de paix, de dialogue et de protection des civils dans les zones affectées par le conflit, indique le communiqué.
Pour sa part, le président des États-Unis se félicite aussi de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Donald Trump s'engage à mettre fin à la guerre qui sévit dans la région depuis plus de 30 ans. On écoute le président américain dans cet extrait choisi par Jean Gandou.
C'est un nouveau chapitre d'espoir et d'opportunité, d'harmonie, de prospérité et de paix qui s'ouvre pour toute la région. Cela a pris beaucoup de temps. J'ai demandé depuis combien de temps dure cette guerre? Et un de mes amis qui était très impliqué m'a répondu 30 ans. Au moins 6 millions de personnes ont été tuées pendant cette période. C'est incroyable. Et quelqu'un a dit que c'était en fait la plus grande guerre sur la planète depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est donc une honte, mais nous allons y mettre fin. Je tiens à exprimer mes félicitations aux représentants de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda. Qui eût cru qu'ils auraient signé cet accord crucial il y a peu? Ils viennent de le signer juste devant nous. Et permettez-moi également de remercier le secrétaire d'État, Marco Rubio, qui a travaillé très dur sur ces sujets et nous y avons travaillé ensemble cet après-midi.
Autre réaction au sujet de la signature de l'accord de paix RDC-Rwanda, c'est celle du président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, s'en félicite et salue tous les efforts visant à faire progresser la paix, la stabilité et la réconciliation dans la région. Il dit avoir reconnu que l'accord complète et renforce les efforts diplomatiques en cours de l'Union africaine, ainsi que ceux menés par la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Le président de la Commission de l'Union africaine a en outre apprécié le rôle constructif et de soutien joué par les États-Unis et l'État du Qatar dans la facilitation du dialogue et du consensus qui ont conduit à ce développement, affirmant que de tels partenariats internationaux ancrés dans des cadres et des priorités dirigées par l'Afrique sont essentiels pour parvenir à des solutions durables. Sur le terrain au Nord Kivu, pendant ce temps, l'accord de paix RDC-Rwanda est accueilli avec enthousiasme par bon nombre d'habitants de la ville de Goma. Toutefois, d'aucuns y perçoivent un goût d'inachevé. Certains Congolais auraient préféré, disent-ils, voir cet événement entraîner immédiatement le départ des rebelles du M23 des villes de Goma, Bukavu et d'autres agglomérations qu'ils occupent actuellement. L'un des habitants de Goma donne ici son avis.
L'attente de la population était à ce que, après avoir signé Voilà, AFC 23 va se retirer. Malheureusement, nous sommes en train d'attendre que à Doha, c'est là qu'il y a encore des dialogues entre le gouvernement de Kinshasa et l'AFC 23. Donc, on attend encore les résultats de Doha. Au moment où les signataires étaient en train de signer hier, l'AFC M23 avait aussi des conférences au niveau de la ville de Goma qui disaient, qui insistaient sur la libération totale de la RDC. C'est à cause des souffrances qui conséquent que la personne est en train de dire, en tout cas, il faut que ces gens ici libèrent la ville de Goma. Il faut qu'ils libèrent Masisi, Rutshuru, les parties de Lubero, Alikani. Et donc, c'est ce que nous nous attendons. En tout cas, la signature là, c'est bon entre les deux pays, mais jusqu'à présent, je vous dis, les M23 sont là, toujours installé dans la ville de Goma et Bukavu et d'autres parties. Nous voudrions que nos deux villes soient totalement libérées. Mais on ne sait pas encore Doha aussi va prendre combien de mois, combien de jours. Et la population est en train de souffrir.
Pour sa part, l'acteur politique et ministre honoraire des Mines, Eugène Diomindongala, préconise la bonne gouvernance pour consolider l'accord de paix signé entre la RDC et le Rwanda. Il a exprimé son point de vue hier dans une déclaration devant les médias à Kinshasa. Président du parti politique démocratie chrétienne, DC, Diomindongala estime que la lutte contre les antivaleurs telles que la corruption, le népotisme, le tribalisme et autres permettra à cet accord de paix d'ouvrir une nouvelle ère de développement, notamment avec le partenariat minier annoncé entre Kinshasa et Washington dans les jours à venir. On écoute Eugène Diomi dans ses propos recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
Cet accord sécurise nos frontières et la souveraineté de la RDC. C'est un accord politique qui prend l'unité et ceux qui étaient partis en rébellion vont rentrer sur le droit chemin parce qu'il y a aujourd'hui le camp de la patrie. Ce camp de la patrie va le sécuriser. Ceux qui n'ont pas de problème avec la justice vont rentrer et vont s'unir pour conduire le pays vers une nouvelle destinée pour le bien-être de tous les Congolais. Ça va nécessiter de faire preuve de bonne gouvernance pour protéger les intérêts des étrangers, notamment les Américains. Nous devrions gérer le pays avec droiture en renforçant la lutte contre les antivaleurs dans la corruption. Pour cela, je dis, nous devons retourner aux valeurs nous léguées par Étienne Tshisekedi, à savoir la bonne gouvernance et le peuple d'abord. Aujourd'hui, la RDC est de retour sur orbite avec un nouvel élan. Il faut soutenir la démarche du président de la République qui fait que le pays s'unisse et aille de l'avant.
Pendant ce temps, dans le territoire de Lubero, Nord Kivu, nous apprenons que les affrontements auraient pris hier entre la coalition FARDC-UPDF et un groupe des Mai Mai dans la localité de Moola. Les forces coalisées ont tenté de déloger les Mai Mai de cet endroit où ils sont accusés de plusieurs exactions contre les civils. Selon des sources locales, la situation reste confuse. De nombreux habitants ont fui la zone pour se réfugier à des endroits jugés sécurisés. Le récit de Guylaine Kassassia.
Samedi, les forces de la coalition des armées congolaises FARDC et ougandaises UPDF ont encore lancé des bombes à partir du village de Vulinda et Ngovole vers la colline de Moola dans l'objectif de détruire les campements de Mai Mai qui sont implantés. Selon des sources de la protection civile locale, les affrontements entre les deux camps ont poussé de nombreux habitants à fuir leurs maisons pour se réfugier à Mambira Centre, Mwangi et Vusamba et même jusqu'à Butembo. L'administrateur du territoire de Lubero ne confirme pas la reprise des hostilités. Pour rappel, les forces de la coalition des armées congolaises et ougandaises ont lancé un assaut le jeudi 26 juin 2025 contre un groupe de Mai Mai actif sur la colline Moola et sur l'axe Biambwe-Masingi. Depuis lors, plusieurs villages sont restés déserts. Une situation qui risque d'impacter le prix des denrées alimentaires sur le marché de la région, notamment la ville de Butembo qui est ravitaillée en produits vivriers à partir de la zone des combats. Beni Gulen Kassassia, Radio Kapi.
Autre nouvelle, la commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes, CIAVAR en sigle, a organisé jeudi à Kinshasa le deuxième dialogue de haut niveau avec l'écosystème national et international d'aide aux victimes. Il s'agit d'un cadre d'échange et de réflexion entre différents acteurs impliqués dans le processus de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en RDC. L'un des objectifs poursuivis est de maintenir le dialogue permanent entre la CIAVAR et toutes les autres parties prenantes dans ce processus. Explication Grâce Amzati.
Le coordonnateur exécutif de la CIAVAR rappelle que sa structure joue le rôle d'interface entre le pouvoir public et les acteurs impliqués dans la réparation des victimes. François Kakessé.
Aujourd'hui, nous discutons. Il y a des avancées dans le cadre normatif. Il y a des avant-projets de loi pour compléter l'arsenal juridique de la justice transitionnelle. Et c'est le lieu d'échanger dessus, de voir aussi comment nous pouvons collaborer sur un certain nombre de sujets, à la fois avec la société civile, mais également les acteurs internationaux qui sont parties prenantes à la justice transitionnelle.
Mais où en est-on avec les processus de réparation ? Emmanuela Zandi, directrice générale adjointe du Fonds national des réparations des victimes, FONAREV, répond.
Le processus de réparation est en cours. Le FONAREV a déjà procédé à l'identification. Il a déjà identifié plus de 250 000 personnes à ce jour. Et donc, il y a toute une étape qui est consacrée par la loi pour avoir les statuts de victimes. Et par ailleurs, le FONAREV met en place déjà des programmes de réparation intermédiaire ou des mesures provisoires d'urgence qui permettent de prendre en charge rapidement les victimes, par exemple, parmi les déplacés qui ont besoin d'assistance immédiate et surtout de relever les niveaux de vie des personnes en situation de déplacement qui ne peuvent pas être éligibles à la réparation classique.
Outre la CIAVAR et le FONAREV, ces assises ont réuni des membres des organismes onusiens et de la justice militaire.
Actualité internationale.
La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples rejette toutes les allégations de violation des droits de l'homme formulées par l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo à l'encontre de la République de Côte d'Ivoire. En effet, le 7 septembre 2020, Laurent Gbagbo a accusé son pays, la Côte d'Ivoire, d'avoir violé plusieurs de ses droits fondamentaux dans le cadre du processus qui a conduit à sa radiation des listes électorales de 2025. Après examen, la Cour africaine a estimé que l'État ivoirien n'avait enfreint aucune disposition des textes internationaux relatifs aux droits de l'homme.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Didier Katemera, député provincial élu de la ville de Bukavu. Dans un entretien à Radio Kapi, il dit se réjouir de la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda à Washington. Pour lui, cet arrangement constitue un levier important pour le développement régional. Didier Katemera s'entretient avec Ronelyne Tibonera.
Monsieur Didier Katembera, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Un accord de paix signé à Washington entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et l'île de Bukavu. Comment vous avez accueilli ces premiers pas dans le rétablissement de la paix dans l'Est?
Pour nous, en tout cas, en tant que population, c'est un ouf de soulagement. Nous croyons beaucoup à cet accord et nous sommes sûrs et certains qu'avec ça, ça sera la dernière guerre et la dernière rébellion. Parce que vous êtes sans ignorer que l'Est de la RDC est vraiment riche. Nous avons beaucoup de minerais qui ne servent à rien du tout. Nous avons autant de richesses naturelles et sous-naturelles, malheureusement, qui ne servent à rien du tout. Et voilà, nous voulions quand même avoir quelqu'un qui accepte de tout donner pour que la paix revienne dans notre partie. La ville de Bukavu est celle de ville vraiment avec une population dynamique, une jeunesse vraiment dynamique, concentrée au développement, mais avec dans la situation des guerres, on ne peut rien du tout. Et voilà, nous, ça, en tout cas, c'est notre soulagement. Nous sommes en train de remercier le chef de l'État, le Parlement, notamment notre président de l'Assemblée nationale, pour les conseils aussi qu'il donne à d'autres députés. Parce qu'il faut dire que le politique congolais, en tout cas, beaucoup profitait de cette guerre. Mais comme ça vient de prendre fin, je suis en train de croire que ça va nous permettre de nous développer, de construire des routes pour les sites qui vous, le nord qui vous, et relier toutes les provinces. Parce qu'il faut dire que les États-Unis vont donner plus de 500 milliards de dollars dans leurs intérêts économiques et cet argent pourra servir à la construction des routes, à l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Est et de tous les pays.
Des minerais bradés, selon certains analystes, pour ne pas parler des acteurs de l'opposition. Vous, en tant que député provincial, est-ce que ce n'est pas une grosse erreur pour la République du Congo?
Bon, moi je sais que pendant plus de 30 ans, on a volé ces minerais. C'est pendant plus de 30 ans, on les bradait. Il y a des contrats qui ont été signés avant ça, mais qui nous ont servi à rien du tout. Et comme ceci engage non seulement le pays, mais aussi la communauté internationale, parce qu'il faut, savoir qu'un grand travail de plaidoyer, de diplomatie a été fait à tous les niveaux, et tout le monde est conscient que la RDC a longtemps souffert et qu'il faudrait laisser ces pays se développer. Vous voyez, c'est vrai que lorsque ça ne marchait pas au Congo, c'est toute l'Afrique centrale qui sera bloquée en termes de développement. C'est toute l'Afrique parce que le Congo est au centre de l'Afrique. Et donc, si ça ne marchait pas au Congo, ça marchera nulle part ailleurs. Donc, tous ceux qui sont en train train de dire Munire Bradé, nous sommes dans un pays qui autorise la liberté d'expression, ils sont libres, et, mais moi je crois au travail qui a été fait. Et je suis
revenons sur un point très essentiel. Aujourd'hui, on sait que le Rwanda a joué un rôle majeur dans la crise, en soutenant par exemple le rebelle du M23. Dans l'accord, on parle des opportunités économiques. Pensez-vous que le Rwanda devra carrément jouer un très bon rôle, s'il faut parler des opportunités économiques avec l'Ouganda et le Burundi dans cette dynamique présentée par les États-Unis d'Amérique?
Pour moi, je sais que nous sommes un pays grand, aussi riche, et ça ne sera pas bien entendu si nous avons cette richesse-là et autour de nous, nous n'avons que des pauvres, nous serons toujours insécurisés. Imaginez-vous dans un village où vous êtes riche, vous-même riche, mais tous vos voisins sont tellement pauvres.
Donc vous plaidez pour une gestion consensuelle de
minerais? Non, je ne dis pas, je suis en train de m'expliquer.
Oui.
Laissez-moi m'expliquer. Si vous n'essayez pas de développer un environnement qui vous permet de mieux vivre avec vos voisins, je pense que vous serez toujours en guerre et vous serez obligé de vous déplacer. Malheureusement, pour nous, nous sommes condamnés à rester ici, à rester avec les mêmes voisins. Nous devons développer des routes qui vont permettre à ces pays de se développer aussi comme nous. Nous allons développer des commerces transfrontaliers qui vont permettre à ces pays aussi de se développer. Il y aura beaucoup d'opportunités qui seront développées pour permettre aussi à ces pays qui nous sont voisins de se développer. Moi, je ne parle pas seulement de minerais, parce que lorsqu'on parle de minerais, ça développe aussi beaucoup de choses. Mais moi, je vais un peu me limiter sur des opportunités qui seront développées à travers cet accord et qui vont permettre à ces pays aussi de se développer. Là, c'est la Chine, par exemple. À côté de la Chine, il y a d'autres pays. Mais la Chine a essayé un peu de mettre une politique qui permet non seulement à ses voisins, mais aussi à lui-même de se développer. Mais aujourd'hui, la Chine est stable. Et cette stabilité a permis à la Chine d'avoir une armée forte et républicaine.
Didier Katembera, élu du site qui vaut principalement dans la ville de Bukavu, nous disons merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
Il répondait donc, notre invité répondait aux questions de Ronelin Tibonera. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.